Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Pour commencer cette nouvelle qui vient de tomber, une explosion a été entendue et de la fumée vue à Kaesong, une ville frontalière nord-coréenne, selon l'agence sud-coréenne Yonhap. Ici aux États-Unis, la maire d'Atlanta dans le sud du pays a annoncé hier des réformes immédiates de la police de sa ville où un autre Africain-Américain, Richard Brooks, a été tué vendredi par un policier blanc, tout comme George Floyd auparavant à Minneapolis. « Je suis furieuse, je suis triste et je suis frustrée », a lancé Keisha Lance Bottoms en dénonçant ce crime. Ce meurtre. Cela n'aurait pas dû finir ainsi, a-t-elle estimé, très émue. Nos agents de police doivent être des gardiens et pas des guerriers, a poursuivi Madame Bottoms. Nous reviendrons dans un instant sur le cas Brooks. Le président américain Donald Trump va, pour sa part, tenter aujourd'hui de répondre à la colère du pays contre les violences policières avec un décret visant à encourager les bonnes pratiques au sein des unités locales des forces de l'ordre, ont révélé lundi des responsables de la Maison-Blanche. À noter par ailleurs qu'en Californie, le shérif du comté de Los Angeles s'est engagé lundi à mener une enquête poussée sur la mort d'un noir de 24 ans, Robert Fuller, retrouvé pendu à un arbre. Les autorités sanitaires américaines ont retiré hier l'autorisation d'utiliser en urgence deux traitements contre le COVID-19, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, un temps défendu par le président Donald Trump. La situation épidémique à Pékin est extrêmement grave, a averti mardi un porte-parole de la mairie, alors que plus d'une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise par un soudain regain de contagion. En revanche, recul en Europe, où les frontières intérieures ont été rouvertes hier. Ici aux États-Unis, le bilan quotidien des décès sur 24 heures est passé sous la barre des 400 morts pour le deuxième jour consécutif selon l'université Johns Hopkins. Ce sont les bilans quotidiens de morts les plus bas depuis fin mars. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier soir à la télévision un allègement du couvre-feu dans la capitale Conakry et la prochaine réouverture des lieux de culte et de certaines écoles fermées pour contrer le COVID-19. Le président guinéen a parlé de statistiques encourageantes concernant le taux de guérison des malades et la létalité de la maladie. On déplore 26 décès pour 4572 cas en Guinée. Au Mali, l'armée a annoncé hier avoir perdu au moins 24 soldats dimanche dans une embuscade imputée aux djihadistes dans le centre du pays. On craint que ce bilan ne s'alourdisse. Les responsables militaires ayant confié à l'AFP que sur les 64 soldats du convoi attaqué dimanche, seule une vingtaine répondait à l'appel, les autres étant soit morts, soit portés disparus. Au Sénégal, l'armée a annoncé que deux soldats ont été tués lundi et deux autres grièvement blessés par l'explosion d'une mine anti-char au passage de leur véhicule lors d'une opération contre les trafics et les bandes armées en Casamance où sévit une rébellion indépendantiste. Au Bénin, la justice a condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité l'assassin d'une fillette de 7 ans pour crime rituel, une pratique répandue en Afrique de l'Ouest. Ses organes ont été prélevés, selon les aveux du prévenu, pour fabriquer des savons au pouvoir magique. La Cour suprême des États-Unis a accordé lundi une victoire de taille à des millions de salariés homosexuels et transgenres, en leur accordant le bénéfice des mécanismes de lutte contre les discriminations au travail, malgré l'opposition de l'administration Trump. Le juge conservateur Neil Gorsuch, nommé par M. Trump, et le président de la Cour John Roberts ont voté avec leurs quatre collègues progressistes. La suite de nos informations, le nouveau président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, va prêter serment jeudi. Cette entrée en fonction a été avancée de 2 mois, sur le président sortant Pierre Nkurunziza. Les détails avec Nani Talani.
Le ministère des Affaires étrangères a invité les représentations diplomatiques au Burundi à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu qui auront lieu jeudi 18 juin 2020 à 11h à Gitega. Élu à la présidentielle du 20 mai, Évariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Jeudi, le gouvernement avait saisi la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du pouvoir et déterminer la marche à suivre. Vendredi, la Cour avait estimé que le nouveau président, issu des rangs du parti au pouvoir, devait débuter son mandat de 7 ans le plus rapidement possible. Cette décision annule la période d'intérim qui devait être assurée par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabinda, comme le prévoit la Constitution en cas de vacance de poste définitif de la présidence. Le général Ndayishimiye, désigné par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a été élu pour un mandat de 7 ans renouvelable 1 fois. L'opposition a dénoncé des fraudes massives, mais son recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle.
En France, le président Emmanuel Macron est favorable à des actions concrètes de lutte contre les discriminations plutôt qu'à des statistiques. C'est ce qu'a indiqué hier son entourage, rejetant ainsi une proposition de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le point avec Abdourahman Diab.
Monsieur Macron a fait savoir hier matin qu'il ne souhaitait pas ouvrir le débat à ce stade sur les statistiques ethniques en réponse à une tribune publiée samedi dans Le Monde par la porte-parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye a répété hier lundi qu'elle voyait dans les statistiques ethniques interdites en France un moyen de lutter contre une forme de racisme impensé. Mais des conseillers du président ont réagi en indiquant qu'Emmanuel Macron était plutôt favorable à des actions concrètes en matière de lutte contre les discriminations qu'à un nouveau débat sur un sujet qui aura du mal à se traduire par des résultats rapides et visibles. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'est aussi dit contre les statistiques ethniques, car selon lui, un Français est un Français. Je ne regarde pas quelle est sa race, son origine, sa religion, et que je ne souhaite pas le regarder, a-t-il ajouté. La France, à l'inverse des pays anglo-saxons, a interdit en 1978 les politiques ciblées, les quotas ou les statistiques ethniques pour traiter tous les citoyens à égalité.
Ici même aux États-Unis, les manifestations ont continué à Atlanta, en Géorgie, pour réclamer une réforme de la police après la mort d'un homme noir abattu par un policier blanc qui a ravivé la colère dans le pays où les plaies sont restées à vif depuis le meurtre de George Floyd. Le point avec Ekia Badou.
Nous ne voulons plus mourir, a déclaré la NAACP, l'Association nationale de l'avancement des personnes de couleur, qui avait appelé à manifester à Atlanta devant le Capitole de l'État de Géorgie pour réclamer la fin des violences policières contre les communautés noires. Richard Brooks, 27 ans, est décédé vendredi soir, moins de 3 semaines après la mort d'un autre Africain-Américain, George Floyd, mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Selon un rapport officiel à Atlanta, le jeune homme s'était endormi en état d'ébriété au volant de sa voiture sur l'allée d'un Wendy's, une chaîne de restaurants rapides. Des images montrent une lutte avec les 2 agents blancs qui ont voulu l'arrêter. Richard Brooks s'empare d'un appareil électrocuté de l'un des policiers et prend la fuite. Un policier tire et Brooks meurt peu après à l'hôpital. Le policier a été limogé et la chef de la police d'Atlanta a démissionné. Les manifestants réclament la fin de l'impunité de faits dont bénéficient les policiers devant les tribunaux fédéraux. Appelée à intervenir, la Cour suprême a refusé lundi de se pencher sur cette doctrine.
La Minute Écho, Ekia Badou.
Selon les prévisions de la Banque mondiale, le PIB mondial va diminuer de 5,2%, ce qui représente la plus forte récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce scénario est dû au choc massif et brutal produit par la pandémie de coronavirus et par les mesures d'arrêt de l'activité prises pour l'enrayer. Qatar Airways va réduire les salaires des pilotes étrangers de 15 à 25% et licencier d'autres pour compenser l'effondrement de son activité provoquée par la crise liée au coronavirus, a annoncé la compagnie aérienne hier. L'entreprise publique aux 100 000 salariés avait procédé en mars à des réductions temporaires de 25 à 50% des salaires de base de la plupart de son personnel. Le trafic aérien au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devrait diminuer au moins de moitié en 2020, selon l'Association internationale du transport aérien. Au Cameroun, la Soka Palme va distribuer 11 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires au plus tard le 30 septembre. Au terme de l'exercice 2019, la société camerounaise de palmeraies, filiale de la société luxembourgeoise Socfin, affiche un bénéfice distribuable de 20,63 milliards de francs CFA, dont 11,2 milliards de francs CFA de réserves légales et 9,61 milliards de reports de bénéfices antérieurs. Soka Palme indique cependant que la répartition du bénéfice en faveur de ses actionnaires s'élèvera à un montant brut de 2665 francs CFA par action, avant retenue de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Nantes a levé son option d'achat pour signer Moses Simon pour un contrat de 4 ans après un prêt au club français la saison dernière. L'international nigérian de 24 ans a marqué 9 buts et fait 8 passes décisives en 30 matchs pour Nantes. Il avait rejoint le club français en août dernier sous forme de prêt d'un an en provenance du club espagnol de Levante. Moses Simon a 30 sélections avec le Nigeria et a fait partie de l'équipe qui a terminé 3e à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Il a raté la Coupe du Monde 2018 à cause d'une blessure. En Allemagne, le Bayern Munich sera sacré champion de la Bundesliga pour la 8e fois consécutive ce soir s'il gagne à Brême à 18h30 temps universel. Pour ce match décisif, le club bavarois a récupéré son duo d'attaque Robert Lewandowski et Thomas Müller, suspendu samedi lors de la victoire contre Mönchengladbach 2-1. Le Bayern Munich a 7 points d'avance sur son dauphin Dortmund à 3 journées de la fin. Le titre lui sera attribué dans 3 cas de figure. Le Bayern gagne à Brême. Le Bayern fait match nul à Brême, mais Dortmund perd ou fait match nul demain mercredi à domicile contre Mayence. Le Bayern perd à Brême et Dortmund perd aussi contre Mayence. Un nouveau succès validerait le 30e titre de champion de l'histoire du club munichois, le 15e au 21e siècle. Depuis la reprise post-coronavirus, le Bayern a gagné tous ses matchs, 6 en championnat et la demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre Francfort. En Espagne, Iker Casillas, 39 ans, ancien capitaine de la Roura, a décidé de retirer sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football. Le champion du monde 2010 a justifié son retrait par la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre son pays, qui fait que les élections passent au second plan, dit-il. L'annonce de l'ancien gardien du Real Madrid entre 1999 et 2015 laisse le champ libre à Luis Rubiales pour une réélection lors du scrutin programmé pour le 17 août prochain. Athlétisme, World Athletics a rejeté la demande de la Fédération russe d'athlétisme de reporter le paiement d'une amende infligée pour ses manquements aux règles antidopage. Cette amende de 5 millions de dollars à laquelle la Fédération russe a été condamnée en mars doit être réglée le 1er juillet au plus tard. Si elle ne paye pas dans les délais impartis, son quota de 10 athlètes russes autorisés à courir sous bannière neutre sera suspendu. La semaine dernière, plusieurs athlètes russes, dont la star Maria Lasitkina, ont appelé leur fédération à régler l'amende due à World Athletics en disant craindre qu'il manque non seulement la prochaine saison internationale, mais aussi les Jeux Olympiques de Tokyo.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seluya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, arrestation d'un juge dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant le maire de la capitale. Le juge Narcisse Sawadogo, substitut du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, a été interpellé pour avoir sollicité 70 millions de francs CFA pour faire classer un autre dossier de pot de vin concernant le maire de Ouagadougou, Armand Bewende. L'affaire fait la une des médias dans le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Véritablement, c'est une affaire dans une affaire. En février dernier, c'est le journal d'investigation Courrier Confidentiel qui a révélé l'affaire dite acquisition de 77 véhicules par la mairie centrale de Ouagadougou. Selon le journal, le maire de Ouagadougou, Armand Bewende, a des intérêts économiques avec l'entreprise attributaire du marché de véhicules par crédit bail pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA.
Nous avons trouvé quand même cette opération assez suspecte.
Ladji Bama est le rédacteur en chef du journal d'investigation Courrier Confidentiel.
Et c'est ainsi que nous avons mené nos investigations pour comprendre un peu les tenants aboutissants, où nous avons pu découvrir qu'il y avait tellement de collusion entre les acteurs de cette opération, notamment le maire Armand Bewende, qui surtout a sa famille, pratiquement sa femme et ses enfants qui sont actionnaires dans la maison d'assurance qui assure les véhicules en question, laquelle maison d'assurance a des intérêts dans l'institution de crédit bail à qui le marché a été octroyé et tout ça. Donc nous avons conclu à une opération en tout cas de pillage, on allait dire, des ressources publiques.
Puis, dans sa dernière parution, le bimensuel, l'événement révèle qu'un réseau de personnes, dont des magistrats, a sollicité auprès du maire de Ouagadougou, Armand Bewende, la somme de 70 millions de francs CFA pour l'aider à étouffer son dossier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Serge Oulon est journaliste à l'événement.
Il y a un peu de l'emballement, effectivement, au niveau de l'opinion publique. La justice en est saisie. Je pense que c'est une bonne chose. La société organisée, chaque composante essaie d'apporter sa contribution. L'événement a essayé de faire sa part. La justice a pris le relais. Il y a deux personnes qui ont été mises en garde à vue. On va suivre, voir ce que ça va donner. Et puis voilà, nous allons encore faire notre travail d'informer les Burkinabés sur ce qui se passe sur cette affaire.
Dans les rues de Ouagadougou, les populations sont convaincues qu'il y a la corruption au sein de l'institution judiciaire.
Quand on regarde, vraiment, il y a corruption au niveau de la justice. Si on voit bien, vraiment, on sait qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas.
On ne peut pas parler que cette justice-là, elle est honnête. Elle est corrompue. Et elle est encore sous la pression aussi du pouvoir exécutif, peut-être. Mais elle est corrompue.
Pour les observateurs et analystes, ce n'est pas la première fois que la justice est épinglée dans des affaires de corruption. Albert Nagreogo est le directeur de publication du site en ligne Libre Info.
En 2014 déjà, le centre d'éthique judiciaire qui était dirigé par Maître Guy Evekam avait dénoncé des cas de corruption au niveau des magistrats. Donc c'est vraiment pas une surprise de voir de telles révélations encore dans le journal.
Dimanche, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Narcisse Sawadogo, une autre personne, Alassane Baganya, un ancien vendeur de voitures de luxe à New York, ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire de tentative d'extorsion de 70 millions de francs CFA au maire de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Togo, les élèves des classes d'examen ont repris les cours lundi. Pour cette première journée, les cours ont été effectifs. Le corps enseignant prépare ses élèves pour des examens de fin d'année scolaire dont les dates ne sont pas encore connues. À la reprise des classes, notre correspondante à Lomé, Kayu Lawson, s'est rendue dans un collège d'enseignement général. Son reportage.
Après près de 3 mois passés à la maison, ces élèves de la classe de 3e renouent avec l'école. Ce n'était pas une rentrée comme les autres, Et pour cause, l'ombre de la pandémie de COVID-19 plane. Les élèves ainsi que les enseignants, tous dissimulés derrière des masques, doivent se laver les mains avant d'avoir accès aux salles des cours. Dans la classe, des dispositions sont prises pour faire respecter la distanciation physique. Pas plus de 30 élèves par classe et un élève, un table banc.
Le respect est
pour ce premier jour de la reprise des classes, chaque professeur, en début de son cours, fait un petit briefing sur les mesures préventives de la pandémie du nouveau coronavirus. Djabigou Bempieni, enseignant.
Avant que les élèves n'arrivent, nous avons eu à organiser une séance où on a eu à réorganiser les classes. Devant chaque classe, nous avons mis les dispositifs de lave-main et chaque élève, avant d'intégrer la salle, a mis son cache-nez. Et les professeurs qui rentrent dans les classes essayent de donner des conseils par rapport à la maladie, au COVID-19.
Dans cet établissement scolaire, tous les élèves ont été dotés de deux masques réutilisables. Et c'est dans de bonnes conditions que les cours proprement dit ont repris.
Quel est le rôle distant dans l'organisme?
Les élèves, ainsi remis dans le bain, n'ont qu'un seul objectif: décrocher le brevet d'études du premier cycle BEPC à la fin de l'année.
On veut juste faire les révisions pour bien passer notre examen de BEPC pour bien réussir. Moi, je suis préparée. J'en rentre à la maison. Comme on nous a laissé, moi, j'apprenais mes cours. Je faisais des exercices. J'apprenais les schémas. Je suis confiante que j'aurai mon examen.
Nous étions inquiets à la maison parce que nous avons un examen à faire. Nous ne pouvons pas rester à la maison et faire les examens à la maison. Comme les cours ont repris, nous sommes heureux et nous allons boxer plus.
Les cours sont ainsi repris. Le défi est de terminer l'année sans avoir de contamination dans les établissements scolaires. La distanciation physique hors des salles de classe n'est pas encore ancrée dans les habitudes, constate l'enseignant Djabigou Mempieni.
Certains élèves sont un peu réticents par rapport à des mesures barrières. Mais d'autres déjà comprennent très bien et ils se mettent quand même à l'œuvre. Pour le moment, ils ne voient pas la différence entre comment ils vivaient et comment ils doivent vivre maintenant. Mais je crois avec nos conseils, avec les sensibilisations qu'on aura leur données dans les classes, ils vont se mettre pour vraiment qu'on achève l'année scolaire en beauté.
Les élèves ont donc 4 à 6 semaines pour préparer leur examen, tout en ayant à l'esprit que du respect des gestes barrières dépend en partie la poursuite de cette année scolaire inédite. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Cameroun, l'un des pays africains les plus touchés par la pandémie de COVID-19, c'est la lutte contre les fausses informations sur le virus. Les autorités sanitaires interviennent sur les réseaux sociaux pour contrer ce phénomène. Reportage d'Anne Zouanke à Yaoundé, repris ici par Nathalie Barge.
Les agents de santé doivent répondre à d'innombrables rumeurs sur le coronavirus qui affirment que les hôpitaux sont débordés et que les tests ne sont pas disponibles ou onéreux. La directrice de l'hôpital de la Caisse nationale d'assurance sociale du Cameroun, Anne Jomland, publie ainsi des informations sur Twitter pour contrer ces rumeurs et rappeler au public que les tests sont gratuits.
Je crois que c'est un canal vraiment qui permet d'informer et surtout que quand vous avez des followers qui ont beaucoup de followers, ça fait qu'effectivement l'impression du tweet peut aller très loin et je crois que vraiment ça aide la communauté, il faut le dire.
Les Nations Unies ont lancé en mai le programme Verified visant à promouvoir sur le net les premiers intervenants dans la crise sanitaire comme le professeur Nland afin de lutter contre la désinformation sur le coronavirus. Au Cameroun, ICT Media Strategies a créé Smart Click Africa et COVID-19.cm pour rappeler au public de vérifier toute information. Bogas Orenjoyoum est directeur du groupe de médias.
La première question à se poser, c'est de savoir qui poste l'information.
est-ce que la personne qui poste l'information est une personne ressource? Cela implique qu'il faut aller voir son profil pour savoir si c'est un médecin. Cette personne a l'habitude de poster des informations vérifiées et vérifiables.
Le rédacteur en chef du journal Cameroun et Mosaïque, Parfait Ababsi, affirme que les efforts de lutte contre la désinformation aboutissent, en particulier lorsque des experts comme la professeure Nland sont impliqués.
Le professeur en question est déjà un professeur de médecine, ce qui est déjà quelque chose de très important. Et ensuite, elle est responsable d'une unité hospitalière de référence au Cameroun, facilement à Yaoundé. Donc, c'est ces deux raisons-là qui font que quand on a besoin d'un certain type d'information, on est obligé, carrément, la profession vous oblige à aller voir de ce côté-là.
D'ailleurs, la directrice de l'hôpital, qui est également présidente de la Société camerounaise de pédiatrie, prévoit d'étendre son rôle d'intervenante numérique pour combattre la désinformation sur la santé maternelle et infantile.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Afrique du Sud tente de relancer son économie et notamment le très important secteur minier qui représente environ 8% du PIB et emploie un demi-million de personnes. Après avoir été presque à l'arrêt pendant plusieurs semaines, les mines reprennent progressivement leur activité. Patricia Hillon.
Devant la station où s'arrêtent les taxis collectifs, un groupe d'hommes discute. Certains ont tenu de travail. La petite ville de Wedela est située à proximité de la mine d'or de Mponeng, la plus profonde au monde. Ici, fin mai, environ 200 mineurs, tout juste revenus au travail après le confinement, ont été testés positifs au Covid-19. La mine a fermé à nouveau pendant une semaine, mais ces derniers jours, ceux qui travaillent à Mponeng ont reçu des SMS leur demandant de se représenter sur le site.
Je retourne sous-sol. On est en sécurité maintenant. Ils ont désinfecté toute la mine.
Ah, cette mine, elle met nos vies en danger. Nous sommes censés aller travailler, mais ils ne nous testent pas. Seulement un examen et au travail. Moi, je n'irai pas.
Le processus, similaire sur toutes les mines du pays, consiste en un examen médical et une série de questions. Mais seules les personnes déclarant avoir été en contact avec quelqu'un porteur du Covid-19 ou présentant des symptômes sont testées. Des précautions que les syndicats estiment insuffisantes. Joseph Matunja, président national de AMCU, le syndicat majoritaire à Mponeng.
S'ils ne vont pas travailler, ils vont mourir de faim. Mais s'ils vont travailler avec un employeur qui n'est pas bien préparé, ça met la vie des travailleurs en danger. Un examen, ce n'est pas suffisant. Parce qu'une personne qui n'a pas de symptômes peut passer à travers. Et nous voyons l'escalade du nombre de travailleurs testés positifs.
Les compagnies minières estiment néanmoins que tester tous les travailleurs ne serait pas efficace ou trop coûteux si les tests devaient être répétés régulièrement. Elles insistent sur le fait que des équipements de protection ont été fournis aux mineurs. Pour l'instant, la plupart des puits n'ont pas encore repris leur pleine activité. Et un autre défi va bientôt se poser. Les employés qui reviendront des pays voisins, notamment le Mozambique et le Lesotho, nombreux dans les mines sud-africaines. Stuart Bailey, vice-président des affaires générales pour AngloGold Ashanti, la société qui gère la mine de Mponeng.
Pour l'instant, nous avons limité le contingent de travailleurs qui reviennent à ceux qui sont déjà en Afrique du Sud. Après ce processus initial de reprise, des gens reviendront des pays voisins. Ils seront transportés depuis ces pays jusqu'en Afrique du Sud, où ils devront faire une quarantaine de 2 semaines.
Le Conseil des minéraux d'Afrique du Sud prévoit une baisse d'environ 10% de la production minière sur l'année 2020. Patricia Huon, de retour de Wedela pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.